France Info. Heures, 21h, France Info, les informés, Simon Le Baron.
Bonsoir à tous. Des cheminots cramponnés à leurs avantages, des usagers victimes d'une grève injustifiée, un gouvernement droit dans ses bottes et qui ira jusqu'au bout. Et si l'histoire était un tout petit peu plus compliquée que cela? On va en débattre ce soir avec nos invités. Brigitte Boucher, vous présentez Politique Matin sur LCP. Bonsoir.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir.
Bonsoir.
David Boëry, éditorialiste au service économie et sociale de France Télévisions. Bonsoir.
Bonsoir Simon.
Et Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint à Politis. Bonsoir à vous.
Bonsoir Simon.
Nous allons donc parler de cette stratégie du gouvernement pour remporter la bataille du rail. Contre-feu médiatique allumé aujourd'hui par Édouard Philippe, Elisabeth Borne, Nicolas Hulot, Emmanuel Macron jeudi chez Jean-Pierre Pernaut et des syndicats de cheminots toujours mobilisés. Bienvenue dans Les Informés. On attendait donc de connaître les chiffres, le taux de grévistes et les prévisions de trafic pour demain pour avoir une idée de l'état des troupes chez les cheminots. Le gouvernement, le mouvement, marque-t-il le pas ou au contraire, est-ce qu'il se durcit? Eh bien, voici les chiffres. 43% de grévistes déclarés demain chez les agents de la SNCF indispensables à la circulation des trains, c'est-à-dire les conducteurs, les aiguilleurs et les contrôleurs. Et un trafic toujours très perturbé, un TGV sur 5, un TER et un Transilien sur 3. Un intercité sur 6 également selon la direction de la SNCF. Brigitte Boucher, on voit que le mouvement ne s'essouffle pas.
Alors non, le mouvement ne s'essouffle pas, bien au contraire. Il y a un dialogue de sourds en ce moment entre le gouvernement et les syndicats qui eux tiennent sur leur position. Ils ont dénoncé à plusieurs reprises une mascarade et des difficultés de dialogue avec le gouvernement. On a l'impression que chacun reste un peu campé sur ses positions. Mais il y a eu une offensive assez forte aujourd'hui du gouvernement pour dire que voilà, il était déterminé à aller jusqu'au bout dans cette réforme. En fait, c'est une fusée qui est à plusieurs étages, on pourrait dire. Ça a commencé la semaine dernière avec Elisabeth Borne, qui était quasiment tous les matins dans une matinale pour réexpliquer sa réforme. Et puis aujourd'hui, le Premier ministre dans Le Parisien dimanche, nouvelle formule, qui explique sa détermination, que le gouvernement ira jusqu'au bout. Et puis Nicolas Hulot, qui lui, dans le JDD, met en perspective. Il y a effectivement deux leviers de communication qui sont utilisés là. On a la perspective donnée par Nicolas Hulot et puis la détermination, c'est deux leviers de communication assez utiles effectivement pour marquer les positions du gouvernement.
On va aborder un peu plus longuement tout à l'heure dans la deuxième partie, après les titres de 20h10, cette stratégie de communication du gouvernement, mais sur la grève en elle-même. Michel Soudet, on voit que les syndicats sont ressortis furieux vendredi de la dernière séance de discussion au ministère des Transports avec Elisabeth Borne. Ils ne sont pas prêts donc à s'arrêter. La grève repart de plus belle demain.
Non, et c'est là qu'on voit que le gouvernement a réussi un exploit, c'est que les quatre syndicats étaient tous d'accord, unanimes, pour déplorer l'absence de discussion et de négociation, puisque même les syndicats réputés réformistes, l'UNSA et la CFDT, étaient extrêmement remontés contre la ministre, disant qu'elle était incapable d'avoir la moindre proposition. Et on le voit bien ce matin avec l'interview du Premier ministre qui dit que ne sont pas négociables l'ouverture à la concurrence, la réorganisation de l'entreprise et la fin du recrutement au statut. Si ça, c'est pas négociable, pourquoi organiser des pseudo-concertations puisque c'est l'essentiel, le reste, il y a pratiquement rien à discuter sur le reste.
On pourra discuter sur les modalités, dit Édouard Philippe. Alors justement, David Boëry, est-ce que les syndicats ont raison de dénoncer une mascarade et un simulacre de concertation?
Non mais en même temps, c'est normal que le mouvement ne s'essouffle pas. Il fait à peine... on est juste au tout début du mouvement.
C'est vrai que ça doit aller jusqu'au 28 juin.
C'est vrai qu'on rentre dans la deuxième semaine, mais on va rentrer là dans la deuxième semaine de mouvement. Mais ce soir, ça n'est que le troisième jour de grève. Donc, quand vous revenez à vendredi dernier, c'est logique que chaque camp continue à rester sur les mêmes positions. Et d'ailleurs, en fait, faut pas qu'il y ait un malentendu. C'était pas une réunion de négociation qui était organisée vendredi au ministère. C'était pas négocier sur le conflit actuel à la SNCF. Ça fait partie des 70 réunions de concertation prévues par le gouvernement pour, on va dire, alors c'est ce que eux expliquent, expliquer leurs réformes et noter les critiques éventuelles des syndicats.
Alors justement, la concertation, je reviens sur ce que disait Michel Soudet et les critiques des syndicats, cette mascarade selon la CGT par exemple, c'est que ces séances de concertation, de discussion doivent aller jusqu'à fin avril. Or, le vote solennel à l'Assemblée nationale sur la réforme, ce sera le 17 avril. Donc à quoi bon discuter une fois que le texte sera voté?
Oui, ça c'est vrai qu'au niveau de l'agenda, il y a quand même effectivement un petit problème. Mais quand vous en parlez à Matignon, on vous explique que la concertation, c'est plus pour expliquer et même présenter ses arbitrages. Enfin, c'est comme ça que eux le présentent en tout cas, plutôt que de véritablement négocier sur ce que doit être la réforme.
Michel Soudet.
Et c'est pour ça que, en fait, ce qu'on a vu là ce week-end, les explications des uns et des autres, c'est dans cette même stratégie de « on vous explique ce qu'on est en train de faire ».
Michel Soudet.
Le gouvernement, depuis qu'il est en place, a complètement abandonné la notion de dialogue social ou autre. Et là, on a encore vu, vous citiez différentes interventions, mais François Drugy était, je ne sais plus dans quelle émission, et il a expliqué que une réforme comme ça ne se négocie pas. Donc, on est dans l'impasse totale avec un gouvernement sourd, aveugle.
Vous disiez tout à l'heure, le gouvernement a réussi un exploit, c'est de faire en sorte que tous les syndicats de la SNCF soient d'accord. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, pourtant insiste beaucoup sur la division. Elle le dit encore ce matin dans le journal Sud-Ouest. Ils n'ont pas une position uniforme, notamment sur l'ouverture à la concurrence. Elle a tort, manifestement, Jean-Christophe Ploquin.
Alors, c'est vrai que pour moi, il y a un front uni des quatre grandes organisations représentatives, mais sur ce point, elle a plutôt raison. C'est-à-dire la CFDT dit assez ouvertement qu'elle est plutôt favorable à la concurrence, mais qu'évidemment, elle souhaite qu'il y ait des négociations, effectivement, notamment sur le statut du cheminot, où elle est très méfiante sur les évolutions proposées par le gouvernement. Moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, dans la configuration actuelle, c'est que, franchement, pendant la grève, effectivement, les discussions continuent, les négociations continuent dans des enceintes très différentes, c'est-à-dire il y a les négociations entre les syndicats et le gouvernement, il y a négociations à l'intérieur de la SNCF, il y a des négociations à l'intérieur de la fédération des entreprises de transport ferroviaire, et donc c'est ça, et donc demain lundi à l'Assemblée nationale, il y a l'examen du projet de loi sur précisément la concurrence du rail qui est lancé. Donc ça donne un peu une impression de grande confusion, de fait, avec des discussions qui sont un petit peu partout, mais c'est peut-être l'originalité finalement de la situation, c'est peut-être comme ça aussi que finalement, des accords peut-être très pragmatiques vont pouvoir être trouvés.
Et le gouvernement tente de reprendre la main dans ce conflit avec une contre-offensive médiatique dont on va parler dans un instant, juste après l'info, à 20h10 dans Les Informés, avec Marc Potvin.
La France demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Dès demain, elle souhaite qu'il planche sur les soupçons d'attaque chimique hier en Syrie. Le régime Assad est pointé du doigt. De son côté, la France travaille activement pour vérifier si ces soupçons sont avérés. Elle fait part de son extrême préoccupation. Après un séjour de 3 semaines aux États-Unis, le puissant prince héritier d'Arabie Saoudite est arrivé en France ce matin. La durée de sa visite, 3 jours. Une rencontre avec Emmanuel Macron est prévue mardi. Aucun contrat mirobolant n'est attendu. À la SNCF, le trafic demain sera moins perturbé que la semaine dernière. En tout cas, c'est ce qu'affirme la compagnie ferroviaire. Elle a donné ses prévisions de circulation pour ce lundi. Comptez en moyenne un TGV sur 5, un TER et un Transilien sur 3. Conséquence du deuxième épisode de la grève perlée contre la réforme du rail. Une allocution d'une heure et demie devant un millier de militants. Olivier Faure a prononcé son premier grand discours en tant que patron du PS ce matin. Discours en clôture du 78e congrès de la formation à Aubervilliers, près de Paris. Olivier Faure s'est montré offensif contre Emmanuel Macron. Il promet que le PS proposera une alternative de gauche aux européennes. Et puis un duel entre Marseille et Montpellier pour conclure la 32e journée de Ligue 1. Coup d'envoi dans 50 minutes à 21h. En début de soirée, les footballeurs de Nice et ceux de Rennes ont fait match nul 1-1. Lyon a écrasé Metz, score final 5-0.
France Info. Les informés, Simon Le Baron.
43% de grévistes demain à la SNCF, selon les chiffres donnés tout à l'heure par la direction. Les cheminots ne désarment pas et le gouvernement contre-attaque. Édouard Philippe ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Elisabeth Borne dans Sud-Ouest. Nicolas Hulot via une tribune publiée dans le journal du dimanche. J'irai jusqu'au bout, dit notamment le Premier ministre. Les grandes lignes de la réforme, et on en parlait tout à l'heure, ne sont pas négociables selon Édouard Philippe, mais on peut discuter, dit-il, sur les modalités. Je reste droit dans mes bottes, on se souvient des mots d'Alain Juppé en 1995, le mentor d'Édouard Philippe. C'est la version 2018 à laquelle on a droit aujourd'hui.
Ah oui, il y a une détermination sans faille du Premier ministre et du gouvernement dans son ensemble. J'entendais tout à l'heure parler de négociations. Il ne s'agit pas de négociations, effectivement, ce sont des concertations.
C'est ce que rappelait David Boyer.
Voilà, de toute façon, il n'y aura pas vraiment de marge de négociation. Si on peut dire, ce sera vraiment à la marge. Ce sera peut-être quand va s'appliquer le nouveau statut, à la fin du statut pour les cheminots. C'est vraiment sur des toutes petites choses et je pense que le gouvernement joue la montre dans cette affaire. On va suivre à LCP le débat à partir de demain à l'Assemblée nationale. Il va durer jusqu'au 17 avril et on sait très bien qu'une fois que la loi est votée, même en première lecture, ça donne quand même un coup en général aux grévistes. On l'a vu sur le mariage pour tous, on l'a vu sur la loi travail. Donc on sait très bien qu'en général ça freine les grévistes et ça donnera sûrement un coup d'arrêt à cette mobilisation. Là, on voit bien que le gouvernement il joue l'opinion depuis le début. Et quand on regarde les derniers chiffres publiés dans le JDD aujourd'hui et notamment de l'IFOP, oui, on voit que le gouvernement a raison, qu'il est quand même assez conforté.
Je
finalement
vais les préciser ces chiffres simplement. 56% des personnes interrogées dans le sondage IFOP estiment que la grève n'est pas justifiée et 62% souhaitent que le gouvernement aille au bout de la réforme. Est-ce que le gouvernement...
62% qu'il aille au bout de la réforme, c'était 51% il y a une semaine. Donc on voit bien que là, les Français, pour l'instant en tout cas, sont toujours du côté du gouvernement.
Donc ce discours de fermeté d'Édouard Philippe est justifié, Michel Soudet.
Les sondages sont surprenants. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus fort. Après tout, le battage qu'on a pu voir sur les grands médias, les télés, tous les journaux qui s'y mettent, quand on voit des JT où il y a 13 minutes sur les gens qui ont des difficultés dans les transports et 1 minute 30 sur pourquoi les grévistes font grève, il est étonnant qu'on n'ait pas des sondages qui soient encore plus favorables à aller jusqu'au bout.
Le débat de fond, on l'entend aussi sur l'ouverture à la concurrence.
On l'entend pas toujours.
Ce que ça a donné en Allemagne, au Royaume-Uni, par exemple, sur
le changement
de statut de la SNCF.
Avec les arguments faux du gouvernement la plupart du temps. Parce que Édouard Philippe, quand il revient là-dessus, il fait abstraction de tous les problèmes qui peuvent exister en Allemagne ou autre. Et on a l'enfumage complet de Nicolas Hulot avec sa tribune, où il joue les naïfs en faisant croire que développer la concurrence permettra d'avoir plus d'offres, plus de trains, que ça sera écologique. C'est l'argument que Daniel Cohn-Bendit donnait au Parlement européen quand on a libéralisé le fret. Vous avez vu le résultat du fret en France ? Il n'y a jamais eu aussi peu de marchandises transportées sur les trains.
Et autant de camions sur les routes.
Pourquoi ? Parce que le gouvernement, tous les gouvernements ont fait le choix de la route et privilégie la route qui coûte beaucoup plus cher à la collectivité que le train.
David Boeri, Nicolas Hulot ne s'était pas exprimé depuis la présentation de la réforme. Pourtant, c'est lui, le ministre de la Transition écologique, qui est le ministre de tutelle d'Elisabeth Borne, donc qui devrait être en première ligne sur cette réforme.
Oui, et d'ailleurs, en fait, c'est une tribune mais où il défend plus le grand principe pour défendre le rail en France.
Oui.
Il rentre absolument pas dans le détail de comment et quoi réformer.
C'est vrai que c'est assez général, redonner aux Français l'amour du train...
Lui, son rôle dans la séquence médiatique, c'est juste de donner un argument sur pourquoi est-ce que la réforme est globalement totalement indispensable. Et en fait, le principal argument qu'il donne, c'est parce qu'on aime le train qu'il faut le réformer pour éviter qu'il disparaisse. Schématiquement, c'est ça. Donc, il y a une vraie répartition des rôles, en fait. Il y a d'un côté Elisabeth Borne qui, elle, concrètement, organise les 70 réunions avec les syndicats de concertation qui, donc, en permanence, appellent au dialogue, à « venez, on va en discuter », etc. Vous avez ensuite le Premier ministre qui, lui, dit « mais non, ça n'est pas négociable, ce sera comme ça, et c'est ça l'objectif qu'on va avoir ». Et puis là, aujourd'hui, Nicolas Hulot qui, lui, défend le principe général du rail. Tout le monde est forcément d'accord avec lui. Hein. Enfin, je vois pas très bien comment on peut contrer l'argument qui est de dire le rail c'est formidable, c'est électrique, c'est moins de pollution, c'est l'avenir, etc.
Il fallait expliquer en fait aux Français finalement.
Non, mais c'est une répartition des rôles, c'est ça que je veux
voilà,
dire.
Voilà, c'est une vraie répartition des rôles, mais il fallait redonner un côté positif, je pense, dans sa façon de communiquer. Parce que depuis le début, on s'est rendu compte qu'en fait, le Premier ministre, le gouvernement en général, enfin, était sur la défensive, oui. Effectivement, et expliquait pourquoi non, il n'y aurait pas de privatisation, pourquoi non.
C'est d'ailleurs sans doute une erreur au départ. Hein. C'est-à-dire que quand Édouard Philippe, la première fois, annonce cette réforme, ça tombe un peu comme ça,
Vous parlez de la définition des rôles.
La répartition des rôles, Édouard Philippe, lui, c'est la fermeté. Il dit autre chose d'assez intéressant dans l'interview aujourd'hui aux Parisiens aujourd'hui en France. La grève est conçue pour maximiser les nuisances pour les usagers. Est-ce que ce discours qu'on entend beaucoup du côté du gouvernement des, je vais caricaturer, les méchants cheminots contre les gentils voyageurs, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur, Jean-Christophe Ploquin ?
De toute évidence, c'était le discours de départ et comme vous l'avez dit, ils sont en train de se rendre compte que d'abord, ils ont resserré les rangs des syndicats de cheminots. Il y a eu effectivement des taux de grévistes importants et ensuite, effectivement, le gouvernement apparaissait très agressif, finalement, vis-à-vis des cheminots. Donc, effectivement, un discours de Nicolas Hulot, avec toute sa légitimité écologique, qui resitue et dit, mais voilà, ça va faire moins de CO2 et le rail est beaucoup mieux pour la transition écologique, évidemment, ça a beaucoup de poids. Il y a un sujet, quelque chose aussi qu'a dit Édouard Philippe ce matin dans l'interview dans Le Parisien, c'était la dette, on n'en parle pas encore.
Oui. Et ça, pas c'est rigolo que parce que la SNCF ne sera pas structurée. Exactement. Et qu'elle ne perdra pas 3 milliards par an.
Voilà, donc ça aussi, je trouve, c'est d'une fermeté très grande à ce stade. Et je trouve qu'effectivement,
c'est aussi une ligne rouge pour les syndicats. D'ailleurs.
Oui, exactement. Oui, et parce que les syndicats voudraient négocier d'ores et déjà. Donc là, il y a aussi un sujet de contentieux sur lequel le gouvernement reste très ferme.
Pour le coup, c'est quand même assez étonnant que ni la stratégie d'investissement ni le problème de la dette ne figurent dans le projet de loi. Nous, on a suivi évidemment commission à LCP le projet de loi, et on se rend compte que ça y figure pas, et l'opposition a pointé du doigt, et à juste titre d'ailleurs, c'est quand même un des gros problèmes, c'est 50 milliards, et effectivement les Français ont mal compris cette réforme, et ont compris que c'était à cause du statut des cheminots qu'il y avait cette dette de 50 milliards.
Donc, justement, puisque vous parlez du statut des cheminots, Michel Soudet, est-ce que le discours de culpabilisation et de présenter les cheminots comme des privilégiés, on s'aperçoit qu'il ne marche pas finalement?
Il a du mal à marcher parce que quand on regarde dans le détail, il n'y a pas tant de privilèges que ça. Quand on voit que la moyenne des salaires bruts à la SNCF, c'est 173 euros de plus que la moyenne des salaires bruts des Français, que là-dessus, ils ont des cotisations supplémentaires que n'ont pas les autres salariés pour leur régime de retraite. Bon, l'écart n'est pas si grand que ça, d'autant que la SNCF a énormément de cadres et d'agents de maîtrise pour une telle entreprise. Ça crée effectivement ça relève les moyennes. Quant au salaire des dirigeants, on les connaît, ils ont aussi plombé le déficit. Quand on voit que Florence Parly avait plus de 50 000 euros par mois quand elle était à une des directions de la SNCF, effectivement, s'il y en a quelques autres comme ça, ça peut poser problème. Mais cette question du statut, j'aimerais bien qu'on y revienne après. Je préfère qu'on y revienne juste après parce qu'il y a des choses très importantes à dire là-dessus.
Il est 20h20 dans Les Informés, l'info avec Marc Potvin.
Le coureur cycliste Michael Gollartz entre la vie et la mort. Ce soir, ce Belge de 23 ans a chuté en début d'après-midi sur le Paris-Roubaix. Les secouristes l'ont retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, les bras en croix sur la chaussée. Il a été transporté au centre hospitalier de Lille. Côté sportif, c'est le Slovaque Peter Sagan qui s'est imposé. L'Union européenne estime que le régime syrien a bien utilisé des armes chimiques hier à Douma, près de Damas. Pour elle, c'est évident. Bruxelles souhaite maintenant une réaction internationale. De son côté, la France demande une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU dès demain. Les résultats des législatives en Hongrie attendus dans la soirée. Certains bureaux de vote sont toujours ouverts. Initialement, ils devaient fermer leurs portes à 19h. Ces prolongations ont été décidées pour répondre à la forte mobilisation des votants. D'après la télévision nationale, le parti du Premier ministre sortant, Viktor Orban, est le grand favori du scrutin. Un début de semaine compliqué dans les gares. Demain, le trafic des trains sera à nouveau perturbé, conséquence du deuxième épisode de la grève perlée à la SNCF. Le groupe a donné ses prévisions de circulation pour ce lundi. Comptez en moyenne un TGV sur 5, un TER et un Transilien. brésilien sur 3. Et puis les étudiants, à nouveau appelés à se mobiliser dans leur fac après-demain. Appel lancé aujourd'hui par une centaine de jeunes délégués issus d'une trentaine d'universités. Ils étaient réunis à Nanterre. Ces étudiants continuent de protester contre la loi sur les nouvelles modalités d'accès à la fac.
France Info. Les informés, Simon Le Baron.
Nous sommes toujours avec Brigitte Boucher de LCP, Jean-Christophe Ploquin de La Croix, David Boéry de France Télévisions et Michel Soudet de Politis. Vous vouliez revenir sur le statut des cheminots, Michel
Soudet. Oui, parce qu'on ne comprend pas pourquoi dans cette réforme, il faudrait à tout prix réformer le statut. En quoi le statut serait responsable du déficit de la SNCF ? Et Édouard Philippe, dans l'interview au Parisien ce matin, ni vouloir casser le statut pour symboliser la capacité réformatrice de son gouvernement, ça lui est reproché parce qu'on pense, ça ressemble beaucoup à ça. Et d'ailleurs, et là, ce qui vient conforter cette hypothèse, c'est que Aurélien Taché, qui est un député de La République En Marche, qui va être chargé de rapporter le projet de loi sur la réforme du chômage et de l'apprentissage, déclarait récemment dans une interview à Mediapart, il faut sortir d'une logique de statut. Comment justifier encore que le statut des cheminots, au regard de celui des travailleurs de plateforme ou des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui, eux, n'ont pas du tout de statut et de protection, existent encore. Il faut absolument faire sauter tout ça, expliquait-il dans l'interview, en disant qu'il fallait aller vers des protections individuelles. Donc là, on a un modèle de société qui se dessine. Et derrière cette question du statut, c'est le statut de tous ceux qui ont un statut qui est visé par la suite. Alors, et les fonctionnaires l'ont bien compris.
Quel est l'objectif ? Et ils vont se réunir en intersyndical mardi. Quel est l'objectif du gouvernement ? Vous posez la question, Michel Soudet. Jean-Luc Mélenchon, lui, a son idée. L'objectif final de cette fin du statut des cheminots, en tout cas à l'embauche, de la transformation du statut de l'entreprise SNCF et de l'ouverture à la concurrence. Écoutez ce qu'en pense le leader de la France Insoumise, il était tout à l'heure sur CNews et Europe 1.
Le changement de statut de la SNCF, c'est la conséquence du changement de statut de la société qui va gérer la SNCF. Et le but est la privatisation du rail. Donc Bruxelles dit aux Français, mais c'est vous qui l'avez voté, pourquoi vous nous faites des représentations ?
Alors ça, ce n'est pas dans la réforme.
La privatisation n'est pas dans la réforme.
Le gouvernement ne parle pas de privatisation. Peut-être ne les croyez-vous pas ?
Ah ben, non seulement je ne les crois pas, mais je les accuse de préparer la privatisation, parce que c'est ça qui est prévu.
L'objectif de cette réforme est-il donc, à l'arrivée, David Boéry, de préparer la privatisation de la SNCF ?
Ah, vous voulez dire à travers la réforme du statut ?
Du statut de la SNCF, transformation en société anonyme à capitaux publics, mais aussi la fin du statut des cheminots pour leur permettre d'aller éventuellement dans des entreprises privées.
Moi je pense surtout que le vrai problème du statut, c'est que ça focalise le débat sur une des questions. Mais c'est un peu, je veux dire, le gros symbole qui cache, entre guillemets, la vraie forêt. Parce que on a commencé à l'expliquer, c'est pas réellement le statut qui est responsable de la dette ferroviaire, ça c'est sûr que non. Le statut est peut-être responsable d'un tout petit peu de manque de compétitivité, mais c'est pas là que se cache le vrai souci à la SNCF. C'est de façon beaucoup plus pragmatique et ce sont toutes les règles de fonctionnement, d'organisation, de planning, de gestion du travail. C'est ça qu'il faut revoir. Et du coup, le problème, c'est qu'en accentuant ça uniquement sur la question du statut, parce qu'en réalité, le statut, on pourrait dire que c'est d'ici 20 ou 30 ans, c'est surtout une économie pour l'État. Parce qu'en fait, c'est de ne plus avoir à payer la retraite des cheminots. En fait, la fin du statut, c'est surtout ça. Donc c'est une source d'économie, entre guillemets, enfin une dépense en moins pour l'État dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Mais le vrai souci que la SNCF a depuis maintenant plusieurs décennies, parce qu'ils ne sont jamais arrivés à bouger ça, ce sont les règles de fonctionnement à l'intérieur de la SNCF. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça rejoint une autre négociation qui est la convention collective dans le transport ferroviaire. Ça fait 10 ans qu'on essaye de la discuter, de la négocier, et il n'y a toujours rien.
On s'attaque à des sujets symboliques qui ont de l'écho dans l'opinion, mais pas au vrai problème de la SNCF, Jean-Christophe Ploquin.
Je crois que c'est plus que symbolique. Enfin, il y a vraiment, effectivement, une transformation très importante qui est en cours. La France est le dernier grand pays européen à ne pas avoir accompli cette transformation. On parlait de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne. Alors, ça se passe pas forcément très bien partout. Il y a des endroits où ça se passe très, très bien. Où la libéralisation, parce que c'est bien ça qui est en jeu, la libéralisation privatisation du transport a apporté plus de desserts, des réouvertures de gares. Souvent, les prix montent, mais il y a beaucoup plus de trafic sur les voies. Donc, c'est pas le rail, les infrastructures en elles-mêmes ne sont pas privatisées. Ça restera pour l'État. Et ce qui va être privatisé, effectivement, c'est les trains, les sociétés qui vont faire passer des trains au-dessus. Et donc là, effectivement, les échéances aujourd'hui sont très proches. Hein, c'est 2020 pour les TGV. Et c'est 2023 pour les trains régionaux. Donc, effectivement, on est en 2018. Si on veut être à l'heure par rapport à ces engagements européens que la France a pris, c'est maintenant qu'il faut effectivement engager cette transformation. Et on comprend que c'est effectivement très impactant pour les cheminots et pour tous ceux qui travaillent à la SNCF. Mais il y a aussi d'autres entreprises françaises comme Keolis ou Transdev, ouais, par exemple, qui sont déjà des acteurs français dans d'autres pays, hein, de Transdev à des trains en Allemagne par exemple. Et donc l'idée c'est d'avoir un peu la même chose en France.
On a parlé de la contre-attaque du gouvernement sur la réforme de la SNCF, on va parler d'Emmanuel Macron dans la deuxième partie de cette émission. Il sera jeudi sur le plateau du 13h de TF1, restez avec nous, la suite des informés dans 5 minutes, 20h28.
France Info Trafic avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets en ligne ou en agence. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Laurent Borde, OPC Circulation de France Info. Un accident dans le sud-ouest, Laurent?
Oui, un accident qui s'est produit sur l'A63 entre Bordeaux et l'Espagne, en direction de l'Espagne. Au niveau de Bayonne, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, juste après la sortie de Bayonne-Nord. Une voie de circulation est neutralisée. Et puis, en région parisienne, il y a un accident sur l'A13 en direction de Caen. Au niveau de Marly-le-Roi, trois véhicules sont sur la bande d'arrêt d'urgence et la circulation est compliquée dans ce secteur puisque vous mettez 40 minutes entre Rocancourt et Orgeval.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski à Météo France.
Ce soir et la nuit prochaine, le vent va faiblir sur la Provence et les pluies soutenues vont quitter le golfe du Lion pour passer à l'est du Rhône, apportant de la neige sur les Alpes du Sud au-dessus de 1800 mètres. Demain matin, l'ambiance sera humide de l'Aquitaine à la Provence, avec l'après-midi sur ces régions méridionales, le développement d'averses orageuses, souvent accompagnées de fortes précipitations. Des Charentes en allant vers la Bretagne et la Normandie, comme ces derniers jours, le ciel va rester maussade. Du nord au Limousin et au Cantal, les brouillards seront suivis d'un temps variable, ponctué d'averses. Elles deviendront plus fréquentes l'après-midi entre le Massif central et le centre. Enfin, dans le quart nord-est, le soleil va encore bien résister. Les températures de l'après-midi, bien qu'en légère baisse, vont rester confortables entre 16 et 19 au nord de la Loire, en Rhône-Alpes et du sud-ouest à la Méditerranée, et 20 à 22 sur la Lorraine et l'Alsace.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335 euros en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
Il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info, Thibaut Cavaillès.
Une circulation des trains assez proche de celle de mardi et mercredi. Quatrième journée de grève à la SNCF demain. Prévoyez un TGV et un TER sur 3, un Transilien sur 3, un Intercité sur 6 pour les lignes internationales. 3 trains sur 4 circuleront. Christophe Castaner sur LCI veut rassurer. Il ne s'agit pas de privatiser la SNCF, corrige le secrétaire d'État des Relations avec le Parlement, évoquant des problèmes de compréhension de la part des Français. Il promet également que des petites lignes ne seront pas fermées. Les gendarmes, on vient de l'apprendre, ont installé des barrages sur la départementale 281, la route dite des chicanes. Nous sommes à Notre-Dame-des-Landes, empêchant donc désormais toute circulation. L'expulsion des zadistes semble se rapprocher et l'État leur avait laissé jusqu'à la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, pour partir ou entamer une procédure de régularisation individuelle. Mais les zadistes, eux, veulent une régularisation collective. En attendant une décision de la préfecture, la principale association d'habitants opposée au projet d'aéroport est inquiète. Elle demande à chaque parti de faire un pas. Julien Durand est le porte-parole de l'ACIPA.
On demande, nous, à l'État de prendre son temps. On ne peut pas régler en 3 mois la suite de l'abandon de ce projet-là. Il nous faudra entre 2 et 3 ans. Donc, il faut du dialogue. C'est sans doute pas la bonne méthode de faire des menaces d'expulsion et de vouloir faire du dialogue. Mais bon, on en prend acte. Aujourd'hui, il faut une vraie volonté de dialogue de la part de l'État et aussi de la part des habitants de la zone. L'État demande des conventions d'occupation précaire pour des projets ou de l'habitat. Il y a déjà eu des rencontres, il faut que ça continue. Donc, il faut du temps. Et aujourd'hui, nous souhaitons au niveau de la CIPA et nous encourageons vivement les habitants qui ont des projets, eh ben, qui font une demande de déclaration à la préfecture. Et ce processus-là permettrait d'éviter des expulsions.
Vers une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU après les bombardements du régime syrien sur la ville de Douma. 9 pays, dont la France, demandent une réunion à New York. Damas est accusé d'avoir utilisé des gaz toxiques qui auraient tué une cinquantaine de personnes entre vendredi et samedi sur cette ville donc de la Ghouta, la dernière poche aux mains des rebelles dans la région. Non loin de là, Gaza et la répression israélienne meurtrière des manifestations ces deux derniers vendredis, une trentaine de morts. La Cour pénale internationale appelle à la fin du bain de sang dans la bande de Gaza. Par la voix de la procureure Fatou Bensouda, le recours à la violence doit cesser, écrit-elle, sous risque de poursuite devant la CPI. Metz n'a rien pu faire, écrasé 5-0 par Lyon, championnat de Ligue 1. Plus tôt dans l'après-midi, Nice et Rennes ont fait match nul, un partout. Et dans quelques minutes maintenant, Marseille clôturera cette 32e journée de Ligue 1 en recevant Montpellier à 20h33. La suite des informés avec Simon Le Baron.
Informé, Simon Le Baron.
Nous sommes toujours avec Brigitte Boucher, présentatrice de Politique Matin sur LCP, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, David Boëry, éditorialiste au service économie et sociale de France Télévisions, et Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint à Politis. C'est une semaine délicate qui commence pour le gouvernement, semaine sociale chargée. La grève à la SNCF, évidemment, la grève à nouveau chez Air France, la contestation dans plusieurs universités contre la réforme Parcoursup, l'intersyndicale des fonctionnaires mardi pour définir un plan d'action contre le projet de réforme dans la fonction publique. Alors, je vous l'accorde, c'est cliché de parler de semaine charnière, de semaine décisive, mais tout de même, Brigitte Boucher, est-ce que c'en est une pour le quinquennat Macron?
Il y a plusieurs semaines décisives qui viennent de se succéder.
Oui, à ce compte-là, il y en a toutes les semaines, je suis d'accord avec vous.
Que c'est une semaine décisive,
c'est
une semaine
à enjeu.
Très importante, oui. En tout cas pour le gouvernement et pour le président, puisqu'il prendra la parole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va s'exprimer donc à la télévision jeudi sur TF1, dans une émission chez Jean-Pierre Pernaut, qui sera délocalisée dans une école primaire.
Oui, tout à fait, dans l'Orne.
Ce qu'il faut voir, c'est que cette émission était prévue depuis 3 semaines, donc il ne répond pas dans la précipitation à justement ces mouvements sociaux et ces rendez-vous un peu désagréables qu'il va avoir à gérer cette semaine. Que dire de cette émission? À la fois que c'est surprenant et que c'est inédit, et en cela, je dirais que c'est un assez joli coup de communication, un assez joli coup médiatique. Il s'offre le 13h de TF1, pourquoi? Parce que le public du 13h, c'est beaucoup de retraités, beaucoup de personnes qui ont été notamment touché par la hausse d'1,7 point de la CSG.
C'est vrai qu'on voit le public touché. L'émission de Jean-Pierre Pernaut, c'est le journal des régions, le rendez-vous préféré
aussi
des seniors.
Voilà.
On sera dans l'Orne, dans une école du village de Berduy.
Il y a beaucoup de symboles, en fait, dans cette intervention-là. Il y a les retraités qu'il fallait toucher. Il y a la France des territoires. On dit que souvent, c'est le président des villes. Il va devoir répondre à un certain nombre de questions, notamment la fracture sociale. Donc, on commence à parler, cette fracture entre les territoires. On sait qu'il a été élu dans les grandes villes. En cela, c'est un assez bon coup d'aller se retrouver, je pense, sur TF1, sachant qu'il va toucher à peu près autant de personnes qu'à 20h, puisque en moyenne, il fait 5,3 millions de téléspectateurs, Jean-Pierre Pernaut, et il fait 41% de part de marché. Donc, il va quand même toucher pas mal de monde et un public qu'il a besoin d'aller toucher en ce moment.
L'Élysée dit que le rendez-vous était prévu depuis 3 semaines et que ça n'a rien à voir avec l'actualité sociale. Est-ce qu'il est permis d'en douter, Michel Soudain?
C'était lié à l'anniversaire de son élection.
Oui. Je pense que c'est une coproduction Élysée-TF1 et amusons-nous un peu puisque en octobre 2011, Nicolas Sarkozy avait demandé une émission de télévision avec Jean-Pierre Pernaut et Yves Calvi et Bruno Roger Petit, porte-parole de l'Élysée, qui n'était pas à l'époque, avait écrit une tribune furibarde contre ce triste spectacle d'une télévision aux ordres, avec un Jean-Pierre Pernaut, incarnation du journalisme de proximité, qui va permettre à Sarkozy de toucher son public, un public âgé, provincial, conservateur et inactif. Je pense que c'est la même chose que vise Emmanuel Macron, et que cette émission serait sans doute une parodie de journalisme. C'était Bruno Roger Petit politique qui écrivait ça. Donc je pense qu'il n'a pas changé d'avis et c'est ce qu'il a conseillé à Emmanuel Macron.
Ce sera la troisième interview accordée par Emmanuel Macron seulement à une chaîne de télé française depuis son élection. Mais pour le secrétaire d'État Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche, il ne faut pas accorder trop d'importance, Michel Soudé, à ce passage sur TF1, tout simplement parce que le président n'a pas besoin d'aller à la télé, selon Christophe Castaner, pour s'adresser aux Français.
Le président de la République parle régulièrement, mais il n'a pas non plus une parole bavarde. Il n'est pas le commentateur des commentateurs. Et donc il s'exprimera la semaine prochaine, comme il s'exprime assez régulièrement, y compris d'ailleurs quand il chemine dans la France, qu'il rencontre des Français, il parle en présence de la presse. La parole n'est pas que la parole formelle dans tel ou tel média. La parole, pour le président de la République, elle est quotidienne. Et c'est bien que la semaine prochaine, il ait choisi un support différent des supports habituels pour pouvoir parler. Il parlera le bon moment et souhaitons que ce qu'il dise retienne toute votre attention.
La parole est quotidienne, donc, pour le président de la République. David Boeri, il y a tout de même un besoin de toucher un large public.
Oui, non, mais là, il va juste un tout petit peu trop loin, parce que là, il est en train d'essayer de nous faire croire que c'est absolument rien de passer une heure sur TF1 avec Jean-Pierre Pernaut, et qu'il le fait tous les jours.
Alors qu'il
n'y
a pas de vacances
jours.
Scolaires.
Oui, c'est vrai.
Et qu'il le fait tous
les jours.
Ce ne
sera pas les vacances dans l'ordre.
Non, ce pas les vacances dans l'ordre.
Non, mais juste pour aller plus loin par rapport à ce que vous disiez. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours trouver toutes les critiques sur la forme, le choix, sur les calculs, etc. Mais si on voit, à contrario, dans l'autre sens, s'il ne s'exprimait pas cette semaine, il y aurait tout le monde qui critiquerait de dire « Alors voilà, toute la France est bloquée, il y a un mouvement social qui bloque toute la France et ça fait maintenant 2 semaines que le président de la République n'a rien dit sur ce sujet-là. » Et donc, on lui ferait le même reproche, en réalité. Donc, je pense qu'il est normal qu'il s'exprime effectivement cette semaine, comme a priori c'était prévu. Mais c'était plus pour préparer, entre guillemets, le premier anniversaire de son élection. Et que donc, ça ne me semble pas illogique qu'il vienne à la télévision cette semaine. Je pense qu'on lui aurait beaucoup fait le reproche s'il ne l'avait pas fait.
On a parlé des ministres, notamment Elisabeth Borne sur la réforme de la SNCF, mais aussi Édouard Philippe, qui ont beaucoup, beaucoup parlé dans les médias pour essayer de contrer cette contestation multiforme. Est-ce que finalement, Jean-Christophe Ploquin, le président de la République, est le seul qui ait suffisamment de poids pour faire basculer éventuellement l'opinion?
Je ne sais pas si vraiment l'enjeu de la SNCF, ça va être l'un des sujets qu'il va évoquer, mais effectivement, quand on sait que cette émission est préparée depuis un certain temps déjà, quand on sait que chez les retraités, il a vraiment subi une baisse d'opinion favorable extrêmement forte, on voit vraiment, moi je suis très curieux en fait d'écouter Emmanuel Macron dans ce type d'émission. Je ne suis pas sûr que ce soit gagné d'avance pour lui. On le connaît comme un tribun, on le connaît comme une personnalité qui a le plaisir de la joute intellectuelle et qui a un verbe très très choisi face à un public qui a besoin de mots simples. Je trouve que il y a un petit côté défi et ce sera intéressant de voir comment il va le relever.
Il est 20h40 dans les informés de France Info. Le débat continue juste après le tour des principales infos de la soirée avec Marc Potvin.
De nouvelles difficultés en perspective demain dans les gares, conséquence du deuxième épisode de la grève perlée à la SNCF. La SNCF qui s'attend toutefois à moins de perturbations que mardi et mercredi. Le groupe prévoit par exemple un TGV sur 5, un TER et un Transilien sur 3. Le régime syrien sous le feu des critiques internationales, il est soupçonné d'avoir mené une attaque chimique hier dans la ville rebelle de Douma près de Damas. Donald Trump veut faire payer le prix fort à Bachar al-Assad et ses alliés. De son côté, la France demande une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Une visite dans un lieu où se développent des startups ce lundi, une rencontre avec Emmanuel Macron mardi, deux rendez-vous au programme de la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite. Elle va durer 3 jours. Mohamed Ben Salman est arrivé ce matin en France. Olivier Faure très offensif contre Emmanuel Macron ce matin à Aubervilliers. Le nouveau patron du PS a prononcé le discours de clôture du 78e congrès du parti. Pour lui, le président mène une politique de droite. Il promet que les socialistes proposeront une alternative de gauche aux prochaines élections, les européennes. Et puis en tennis, la France qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis. Qualification grâce à la victoire de Luca Pouille cet après-midi en quart. Il est venu à bout du numéro 1 italien Fabio Fognini en 4-7. La France affrontera l'Espagne en demi-finale au mois de septembre.
France Info.
les informer, Simon Le Barreau.
Comment Emmanuel Macron peut-il casser son image de président des villes et président des riches? Eh bien, les communicants de l'Élysée ont trouvé la réponse. Il sera jeudi midi à 13h sur TF1 chez Jean-Pierre Pernaut, dans une petite commune rurale de l'Orne, dans l'école de cette commune de Berduy. La ficelle est un petit peu grosse, Michel Soudès, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, complètement. Et s'il espère casser son image de président des riches, on va lui enlever tout de suite cette illusion. Elle n'est pas prête de partir, elle est bien ancrée dans le pays. C'est vrai que dès le début de l'été, on avait fait une à Politis sur ce thème-là, et on a vu ensuite que ça se répart... enfin, le thème se répandait énormément. Et quand on interroge les Français, c'est bien ancré. Il y avait quand même un sondage il n'y a pas très longtemps qui considérait, dont 75% des Français considéraient que sa politique était injuste. Et c'est bien ça qu'il y a derrière. Or, quand il répond, comme à Rouen la semaine dernière, à des aides-soignantes infirmières, qu'il n'y a pas d'argent facile, magique, il n'y a pas d'argent magique, on a bien vu qu'il pouvait y avoir de l'argent magique quand il s'agissait de réformer l'impôt sur la fortune, créer une flat tax et finalement dégrever quasiment 10 milliards du budget de l'État.
Emmanuel Macron contesté, donc on l'a dit, à la SNCF, à Air France, dans les universités, peut-être bientôt dans la fonction publique. Il y en a un ce week-end qui s'est placé clairement dans l'opposition au président de la République et à sa politique. C'est Olivier Faure qui est devenu officiellement le 13e premier secrétaire de l'histoire du Parti Socialiste. C'était ce matin, il a prononcé le discours de clôture du 78e congrès du PS à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Écoutez Olivier Faure.
Nous venons de connaître l'une des périodes les plus éprouvantes de notre histoire récente. Car, quand même, un ministre issu de nos rangs, clamant d'abord sa fidélité à la gauche, puis prétendant n'être ni de droite ni de gauche, avant d'affirmer d'être et de droite et de gauche, et qui mène depuis son élection une politique et de droite et de droite.
Le nouveau premier secrétaire du PS, Olivier Faure, donc ce matin à Aubervilliers. Est-ce qu'il est crédible, Brigitte Boucher, dans cette position de premier opposant, ou en tout cas opposant clair et frontal à Emmanuel Macron?
Alors déjà, est-ce qu'il est crédible dans les avis de premier secrétaire du Parti Socialiste? C'est pas évident non plus pour Olivier Faure.
Il a assez largement gagné l'élection quand même qui était organisée chez les militants.
Effectivement, mais c'est pas le tribun dont on parlait de Macron tout à l'heure. C'est vrai que c'est compliqué pour lui de s'imposer, je pense, au milieu des socialistes quand même. Il va falloir qu'il prenne le costume, qu'il le mette à sa taille. Et à mon avis, c'est quand même assez compliqué, d'autant que le PS, il vient de le dire, il part de très très bas. À l'élection présidentielle, Benoît Hamon a fait 6,36%. Et c'est même Olivier Faure qui disait il y a quelques jours, on est à 6,0. Donc il a quand même un peu d'humour pour expliquer qu'effectivement, et il parle de renaissance. C'est vrai qu'il faut repartir de zéro, il faut refonder un PS. Et lui, alors, il était dans le rassemblement, hein. C'est comme ça qu'il a fait campagne, ça a fonctionné. Moi, j'ai un peu l'impression de voir la continuité d'un François Hollande avec une sorte de synthèse. Je ne sais pas si ça peut réussir aujourd'hui. Il y a un enjeu en tout cas qui sera pour lui de conserver l'aile gauche du parti qui est aujourd'hui incarnée par Emmanuel Morel, qui a fait 18%. Lors de ce congrès, et Emmanuel Morel pourrait être tenté, comme le MJS part du côté de Benoît Hamon, de faire sécession. Et alors là, ce sera encore plus compliqué pour lui. Et puis l'autre enjeu, c'est de définir une ligne politique. Alors là, il vient de le faire en s'opposant assez directement et assez frontalement à Emmanuel Macron. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que on avait reproché à plusieurs socialistes au moment du discours de gouvernement du Premier ministre de s'être abstenu sur ce discours-là.
Sur le discours de politique générale et la confiance accordée
au gouvernement. Il est dans l'opposition.
En même temps, dans son discours, il a Michel refusé Soudet. L'opposition frontale, toute opposition frontale, puisqu'il a dit que l'opposition frontale, ça relevait de la polémique, et eux, ils font de la politique, et qu'il n'était pas question qu'ils disent noir quand c'est blanc.
David Boeri.
De toute façon, là, c'est juste le premier pas, parce que là, on voit bien, il se détermine contre... Là, il n'est pas encore pour quelque chose. Enfin, il me semble pas avoir vu dans le discours de présenter des idées ou à défendre réellement. Donc là, c'est plus de s'opposer à. Donc ça, c'est effectivement la première étape. Après, il faut attendre de voir pour proposer quoi. Parce que c'est contre, mais pour proposer quoi au final. Alors, en même temps, on peut se dire que là où il a entre guillemets, un peu de chance, parce que vous parliez de rassemblement, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de boulot, mais il part de tellement bas avec, entre guillemets, tellement peu de personnes, qu'il aura, a priori, moins d'opposition que ses prédécesseurs en ont eu. Je veux dire, d'espèces de gauche irréconciliable, machin. Là, je veux dire, a priori, ils devraient arriver à tous se réconcilier, parce que, je veux dire, ils sont plus très très nombreux au Parti Socialiste.
Pas forcément, d'ailleurs, on l'a vu au Congrès, Jean-Christophe Ploquin, il y a ceux qui sont pour un droit d'inventaire.
Une chance pour lui, oui. Paradoxalement.
Mais il y a tout de même ceux qui sont pour un droit d'inventaire et une critique du quinquennat Hollande, et puis d'autres comme Stéphane Le Foll qui l'assument et qui disent nous, on assume d'être responsable de ce bilan, Jean-Christophe Ploquin.
Oui, puis quand même, la Nouvelle Gauche, le groupe Nouvelle Gauche, c'est quand même deux fois plus de députés que la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bon, il y a quand même des troupes qui restent là, même s'ils partent de très loin. Moi, on voit bien qu'effectivement, Olivier Faure, il se situe dans l'opposition. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il sera un réformiste, c'est-à-dire est-ce que la Nouvelle Gauche va rester fidèle quand même à la logique réformiste de la social-démocratie, ou bien est-ce qu'il va aller chercher un ton beaucoup plus virulent et agressif. Et là, il se trouve qu'il y a déjà du monde sur le marché. Évidemment, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Benoît Hamon, et donc il va mettre sur un créneau très étroit.
Compris, il veut absolument se démarquer du dégagisme.
C'est ça, absolument.
Il l'a dit.
Il
l'a
dit. Et il a dit que justement dans la perspective des Européens. Il voulait travailler avec le Parti Socialiste Européen, qui est le deuxième parti qui compte le plus grand nombre de députés européens au Parlement européen. Donc c'est une vraie force. Et on voit bien que là, ça veut dire qu'il s'inscrit dans une tradition social-démocrate. Mais pour le moment, effectivement, il a en même temps dit, voilà, je me situe dans une opposition de classe et de casse. Enfin, en dénonçant effectivement la politique de Macron, il a dit c'est une politique de classe et de casse. Donc il recourt encore à des arguments qui étaient plus trop à la mode au Parti Socialiste.
Michel Soudet.
Si, c'est les punchlines comme ça dans les discours socialistes. Il y en a toujours eu, y compris avec François Hollande et y compris pendant la période gouvernementale, quand il s'agit de chauffer une salle.
Oui, c'est ça. Au
alors, il y a des thèmes dans les discours socialistes. Le rassemblement, ça suscite des applaudissements tout le temps. La laïcité, même chose.
Des mots-clés.
voilà, il y a des mots-clés comme ça. Et les références historiques,
donc
ça marche.
Donc, on va voir la synthèse.
Mais par contre, sur l'Europe, il va effectivement sans doute avoir quelques problèmes. D'ailleurs, on l'a vu. Ils ont voté ce qui était demandé par la gauche du Parti Socialiste, c'était de montrer que le Parti Socialiste s'adressait aux Français qui sont dans le mouvement social en ce moment ou autre. Il n'y a pas eu ça. Il y a eu juste un hommage comme ça, un peu appuyé dans le discours. Mais ils ont voté une adresse aux autres partis socialistes européens. Dans cette adresse, finalement, le discours est toujours celui de toutes les élections européennes passées, qui a mené
la journée.
Il n'y a pas de changement. C'est les poncifs pour une Europe plus démocratique, plus écologiste, plus sociale, l'Europe sociale. Jeune journaliste, en 1989, j'ai fait mon premier dossier sur l'Europe sociale. C'était après des grandes phrases de François Mitterrand. Elle n'a pas avancé, l'Europe sociale. Donc, dans les traités actuels, dans le cadre européen actuel, elle ne peut pas avancer.
Nous allons quitter la politique française dans la dernière partie des informés. Nous allons partir en Syrie, soupçon d'attaque chimique. Et la France dit qu'elle prendra toutes ses responsabilités. Elle demande une réunion en urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. On en parle juste après l'info à 20h50 avec Marc Potvin.
La route des chicanes, interdite à la circulation à Notre-Dame-des-Landes. Les gendarmes ont dressé ce soir des barrages sur une partie de la RD 281, la partie qui longe la ZAD. Les zadistes sur place s'attendent à une évacuation imminente. La patience sera encore de mise demain dans les gares. Une fois de plus, les trains seront moins nombreux. Conséquence du deuxième épisode de la grève perlée à la SNCF. Le groupe annonce des perturbations moins importantes que mardi et mercredi. Pour ce qui est des trains du quotidien, par exemple, compter un TER et un Transilien sur trois. L'Iran vole au secours du régime syrien. Plusieurs pays, dont les États-Unis, l'accusent d'avoir mené une attaque chimique hier dans la ville rebelle de Douma, près de Damas. Pour Téhéran, ces accusations ne sont qu'un nouveau complot contre le régime de Bachar al-Assad. L'Iran est un fervent soutien du dirigeant syrien. L'avertissement de la Cour pénale internationale après les violences meurtrières dans la bande de Gaza. Elle pourrait juger les auteurs de crimes de guerre, d'après la procureure Fatou Bensouda. Depuis le début des manifestations fin mars, une trentaine de Palestiniens a été tués par l'armée israélienne. La Cour pénale internationale appelle à la fin du bain de sang. Et puis un doublé kényan aujourd'hui au marathon de Paris. Chez les hommes, Paul Lonyangata a terminé en 2 heures 6 minutes et 25 secondes. Chez les femmes, Betsy Saina s'est imposée en 2 heures 22 minutes et 55 secondes.
France Info.
Les informés, Simon Le Baron.
Combien de fois la ligne rouge a-t-elle été franchie en Syrie? Une nouvelle fois, le régime syrien est accusé d'avoir mené une attaque chimique. Des dizaines de morts dans la ville de Douma, dans la Ghouta orientale. Ce sera peut-être la fois de trop. Le président américain Donald Trump dit vouloir faire payer le prix fort à Bachar al-Assad. La France, de son côté, demande une réunion en urgence demain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Emmanuel Macron a répété plusieurs fois que si l'utilisation d'armes chimiques était avérée en Syrie, la France riposterait militairement. Paris prendra toutes ses responsabilités, dit ce soir Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'une intervention militaire française en Syrie, Jean-Christophe Ploquin, est envisageable ce soir?
Alors une intervention avec des troupes au sol, pas du tout, mais des frappes, effectivement, aujourd'hui.
Sur des cibles stratégiques.
Voilà, là en ce moment, j'imagine que les états-majors et à la présidence de la République, il y a une interrogation. Il va falloir répondre dans les jours qui viennent à la question, est-ce que la France, effectivement, veut punir Damas en cas de preuve que Damas a utilisé des gaz chimiques? Et donc aujourd'hui, finalement, alors que la France est relativement marginale en Syrie, hein, elle a très peu de troupes au sol, elle n'est active que dans le nord-est pour lutter contre Daesh. Là, il y a la question d'une intervention, effectivement, et de frappe française très forte. Comment on définit Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, comment ils ont défini, effectivement, la position française? Effectivement, s'il y a une frappe, s'il y a des utilisations d'armes chimiques, et si elles ont fait des morts, donc on utilise le terme de létal, et si la responsabilité du régime syrien est avérée, c'est le terme aussi entre guillemets, alors la France considère que la ligne rouge a été franchie, et donc si elle est cohérente avec son discours, elle décide que de punir en quelque sorte Bachar el-Assad, parce que c'est une violation, c'est un crime de guerre, l'usage d'armes chimiques, et c'est une violation des traités internationaux.
Le problème, c'est que jusqu'à présent, il y a de forts soupçons, mais jamais l'utilisation n'a été avérée. L'ONU dit qu'il y a de forts soupçons en 2017, notamment d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad, mais il n'y a pas de preuves.
Et c'est ça, Brigitte Boucher. Ploquin, vous parliez de preuves, et effectivement, il faut d'abord établir la véracité des faits, et ça prendra forcément du temps. Donc on imagine mal qu'il peut y avoir une intervention immédiate, sachant qu'on ne peut pas intervenir. Enfin, il faut, si on dit que d'un côté on viole le droit international, il faut aussi le respecter de l'autre en établissant qu'effectivement des armes chimiques ont été utilisées par Bachar el-Assad. Il ne faut pas oublier qu'il est soutenu quand même par la Russie et l'Iran, que ça implique quand même beaucoup de forces mondiales, et que ça aurait des conséquences assez importantes.
D'ailleurs, la Russie met en garde contre une intervention militaire, notamment des États-Unis, pour des prétextes fabriqués.
Elle a dit que ça légitimerait une intervention en Syrie.
Qui pourrait mener aux plus longues conséquences. Oui.
Mais s'il y a une intervention, effectivement, Emmanuel Macron dit qu'il pourrait intervenir seul. En général, c'est des interventions qui sont concertées, puisqu'il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, et ça serait plutôt avec les États-Unis. On sait qu'il y avait eu un échec avec Barack Obama et François Hollande en 2013.
À l'été 2013, l'intervention militaire avait failli être déclenchée.
Donc, il faudrait soit se mettre d'accord, est-ce que Emmanuel Macron prendra s'il a les preuves, la décision
2013,
d'intervenir
seul, ce serait assez David fort. Boéry, au dernier moment, en 2013,
en 2013
Barack Obama avait changé d'avis.
C'était une ligne rouge qui avait été franchie, c'était aussi une attaque chimique qui avait été, entre guillemets, avérée. Après, d'ailleurs, des mois d'enquête. Hein. C'est pour ça qu'a priori, on ne sera pas dans les 24
Trump,
ni dans les 48
Donald
heures.
Donald Trump a déjà frappé en avril 2017, donc il y a un an. Donald Trump avait déjà envoyé des missiles sur une base aérienne d'où étaient partis des avions
C'est pour ça que quand vous parlez de la position française, en fait, ça dépend surtout de la position géostratégique de tous les acteurs sur ce terrain-là.
Et la difficulté, effectivement, on parle d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain. La difficulté, c'est qu'il y a la Russie au Conseil de sécurité
qui mettra son veto
à toute résolution, qui recommanderait une punition du régime.
Évidemment, Michel
Soudé.
Donc
la France va devoir, effectivement, comme vous le disiez, se déterminer, est-ce qu'on y va avec ou sans le feu vert de l'ONU.
Michel Soudé.
Il y a deux choses. Là, on a l'impression que la France, qui avait déjà fixé ses lignes rouges par le passé, mais qui reculait en disant, bon, on n'a pas tout à fait les preuves. Là, elle durcit le ton parce que les États-Unis le durcissent et on suit les États-Unis. Ensuite, s'il devait y avoir frappe, qu'est-ce qui serait visé là aussi? Est-ce que c'est directement le régime ou une base aérienne quelconque ou autre? Ce qui a beaucoup moins de conséquences.
Ce serait des objectifs militaires.
Des objectifs militaires, ça a beaucoup moins de conséquences. Donc, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Mais c'est vrai qu'à force de dire on va frapper, on va riposter et ne pas le faire, c'est assez ridicule.
Merci à tous d'avoir été dans les Informés de France Info. Michel Soudet, à l'une de Politis cette semaine. Tiens, je l'ai là. Le numéro de Politis.
Oui, c'était sur le mouvement étudiant. On a essayé de voir un peu ce qui les motive. Ce n'est pas que Parcoursup. Il y a aussi des modifications dans l'ordonnancement des études, des compensations qui n'auraient plus lieu, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a un mouvement en ce moment qui a tendance à se répandre dans les universités.
C'est à lire dans Politis. Brigitte Boucher, on vous retrouve demain matin dans la matinale de LCP. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Christophe Ploquin, à la une de la Croix demain.
À la une de la Croix demain, les catholiques à la rencontre de Macron. Parce que demain soir, Emmanuel Macron rencontre 400 personnalités du monde catholique. Et c'est la première fois qu'un président de la République s'adresse comme ça à une audience uniquement catholique.
Merci aussi à David Boëry de France Télévisions et merci à vous surtout de nous avoir suivis sur France Info, à la radio et à la télé. Les Informés reviennent demain avec Jean-Mathieu Pernin. Il est 20h58.